Nous sommes
Simon,
Julie,
Laurent,
Anne,
Patrick,
Laura,
Roland,
Pauline,
Laurent,
et vous écoutez le podcast d'Oxfam Magazine du Monde.
Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable.
Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir.
Épisode 8, un mois sans supermarché.
Bonjour à toutes et tous, c'est le jour J pour la mobilisation des agriculteurs à Bruxelles. Un bon millier de tracteurs sont attendus, des convois sont en chemin, d'autres sont déjà arrivés.
Alors c'était quoi ce que je devais encore acheter tout à l'heure? Des œufs, du lait pour le chandeleur. Sinon les filles vont me tomber dessus. Il faut un cadeau aussi pour Annabelle. Ah c'est quand encore le vrai jour? Ah c'est le 1er février, ah, bah c'est aujourd'hui. Ah ben, je vais aller voir chez Oxfam, je vais sûrement trouver un chouette truc. Est-ce que c'est déjà ouvert? Ah oui, voilà. C'est quoi ce truc? Moi sans supermarché. Ah bon?
Bonjour.
J'ai vu à l'entrée qu'il y a une affiche qui dit « Moi sans supermarché ». Mois de février sans supermarché, c'est...
Oui, c'est une action d'Oxfam. Au mois de février, on propose aux gens un guide de survie sans supermarché.
Ah oui.
Ouais. Okay.
Ah oui, je vois ici le guide de survie sans supermarché.
Oui, voilà ici.
Ok, je peux regarder?
Oui, bien sûr. Ils sont là pour ça.
J'ouvre le guide de survie sans supermarché que je viens de découvrir et qui me propose de relever le défi de passer un mois sans mettre les pieds dans un supermarché. Et de partir plutôt à la découverte de toutes les alternatives qui existent pour remplir mon frigo. Enfin, là, pour le moment, j'ai pas de frigo chez moi parce que... Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, le mois de février sans supermarché, ça a commencé il y a déjà quelques années. Je découvre sur le site du média suisse Envers et Contre Tout qu'en Angleterre et aussi en France, des journalistes ont tenté l'expérience de vivre sans supermarché. Par exemple, Mathilde Gola, alors journaliste au Figaro, s'est lancée dans une expérience d'un mois sans supermarché qui va durer une centaine de jours. Son but, c'était de trouver une solution à la crise agricole en se passant de la grande distribution.
La capitale sera bientôt prise d'assaut par les agriculteurs. Plusieurs convois sont en cours, ils viennent des quatre coins du pays. Mais aussi.
Et le résultat, Mathilde consomme mieux sans dépenser plus. Et puis, le mois de février sans supermarché est relayé en Suisse, en France, en Belgique, et même au Québec, en Espagne, en Tunisie. Le défi prend encore plus d'ampleur. Selon Envers et Contre Tout, les alternatives se multiplient, il est de plus en plus facile de relever le défi, et près de 50 000 personnes y prennent part. Et les épiceries annoncent même avoir augmenté leur chiffre d'affaires de 10 à 25% durant le mois de février. Je vois qu'en ce début 2024, Oxfam Magasin du Monde, Consomaction, qui est le porte-parole fédérateur des professionnels du vrac, du réemploi et du zéro déchet en Wallonie et à Bruxelles, ainsi que le collectif 5C, qui regroupe une quarantaine de coopératives citoyennes belges, et aussi le réseau des GAZAP, ce sont les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne, et enfin la plateforme Open Food Network, toutes ces organisations se sont mises ensemble et ont rejoint le mouvement. Et ils ont participé à la distribution de ce petit guide de survie sans supermarché, que je tiens entre les mains.
Je peux repartir avec ?
Oui.
Merci beaucoup.
Oui, mais de rien. Écoutez, lisez-le attentivement et puis je crois que vous reviendrez chez nous. Hein.
Merci.
Et voilà que s'ouvre le mois de février sur la manif et les blocages des agriculteurs et des agricultrices partout en Belgique. Bon, le sujet est plutôt d'une actualité brûlante. Mais quand même, tout un mois sans supermarché ? Avant de me décider à relever le défi, je décide de faire ma petite enquête perso, avec un micro-trottoir, tiens, à la sortie d'un supermarché, dans une galerie commerciale. Je suis curieux de voir ce que les gens disent quand on leur demande « Est-ce que vous pourriez passer
tout un mois sans mettre les pieds dans un supermarché ?»
Non, pas du tout.
Non, parce que j'ai besoin de manger.
Bah non, je crois pas que ce soit possible.
Je pense que ça risque d'être compliqué. Non, parce que... Non, je pense pas que j'en serais capable.
Bah non, je pense pas.
Non, j'ai trop l'habitude de faire comme ça, donc...
Bon, on n'allait pas croire que toutes les réponses sont aussi catégoriques. C'est du montage. Mais on nous explique aussi pourquoi les supermarchés sont tellement incontournables.
Ici à Louvain-la-Neuve, je vois pas d'autres moyens.
Pour des questions de temps, plus précisément.
Je veux dire, dans un supermarché, on a tout à disposition directement. C'est beaucoup plus pratique. Et les marchés, il n'y en a pas partout.
Si on est prêt à livrer chez moi des produits, alors oui. Mais sinon, non, j'ai vraiment besoin d'aller au supermarché au moins une fois par semaine.
Nos habitudes dépendent trop pour le moment d'un supermarché.
Tout au même endroit, pas faire plusieurs magasins.
Je pense que les prix sont beaucoup plus abordables. Donc sincèrement, je ne me vois pas du tout faire ça en fait.
Le prix, la proximité, l'omniprésence et l'offre très complète des supermarchés les rendent indispensables pour beaucoup d'entre nous. Mais que leur reproche-t-on au juste ? Je suis allé poser la question à Sylvie Droulant, directrice de l'ASBL ConsomAction.
Donc ConsomAction, c'est une fédération qui regroupe les acteurs professionnels du vrac, du réemploi et du zéro déchet en Belgique. L'association a pour objectif de tirer la filière, mais aussi de soutenir le secteur dans la mise en œuvre en fait, de solutions sans emballage ou avec des emballages réutilisables.
Et je me suis également adressé à Patrick Veillard.
Bonjour, je m'appelle Patrick Veillard, je suis chargé de recherche et de campagne chez Oxfam Magasin du Monde.
Tous deux ont décidé de relayer le défi du mois sans supermarché en Belgique francophone.
Donc l'année passée, ConsomAction avait déjà entrepris des actions liées au mois sans supermarché. L'idée est de reproduire ça effectivement chaque année, dans l'objectif en fait de vraiment mettre en avant les différentes alternatives qui existent. Aujourd'hui, la grande distribution a des moyens publicitaires assez colossaux, ont des moyens de communication très très performants.
Miniprix, une machine super puissante qui vous assure les produits que vous voulez vraiment.
Et efface un peu la voix des alternatives qui, elles, n'ont pas des moyens similaires pour pouvoir se faire entendre, se faire connaître. Et l'objectif d'un mois sans supermarché, c'est l'objectif de dire, essayons pendant un mois de changer un petit peu nos habitudes, d'aller vers d'autres propositions d'achat, dont les commerces de vrac, les commerces de proximité, les commerces éthiques comme Oxfam, Magasin du Monde, etc. Et donc, c'est l'opportunité de se rendre compte qu'en fait, à côté des grandes surfaces, il y a tout un écosystème de solutions alternatives qui existent et qui méritent d'être essayées et testées.
Bonnes affaires au rayon produits frais. Nicole en promo. Nicole aimerait un temps plein, mais nous ne lui offrons qu'un temps partiel. Quand son contrat se terminera, Nicole n'aura donc qu'un droit partiel au chômage.
Alors, qu'est-ce qu'on reproche au supermarché ? C'est d'appliquer un modèle commercial défavorable aux producteurs et à l'environnement et à la société au sens large, dans le sens où, par exemple, les supermarchés ont des pratiques commerciales déloyales, des longs délais de paiement, des rétrocommissions demandées à leurs fournisseurs, etc. Et en plus de ça, ils ont tendance à mettre très fortement la pression sur les prix demandés à ces mêmes fournisseurs. Donc tout ce modèle commercial, finalement, met trop de pression et empêche le développement d'alternatives de transition, et notamment dans tout ce qui concerne l'agroécologie.
Chez Miniprix, nous mettons nos fournisseurs sous pression, pour vous assurer les meilleurs produits en quantité toujours suffisante.
Peut-être préciser que c'est pas nécessairement les supermarchés en tant que tels qu'on dénonce, c'est surtout le modèle en fait qui est associé et qui est derrière, dans le sens où les supermarchés sont la première ligne en fait. Mais quand on va dans le supermarché, on accepte d'acheter des produits suremballés, d'acheter des produits qui mettent la pression sur les petits producteurs. On accepte toute une série de pratiques polluantes, d'utilisation de pesticides, d'engrais synthétiques, etc. Auxquelles contribue aussi l'agro-industrie, qui est un peu l'acteur qui se trouve derrière. Donc finalement, le mois sans supermarché, c'est pas seulement le mois sans supermarché, c'est le mois sans supermarché, mais aussi le mois sans agro-industrie, sans production agricole intensive, conventionnelle, polluante et qui précarise les producteurs.
Mais beaucoup de gens me disent qu'ils vont dans les supermarchés et qu'ils choisissent alors peut-être des produits bio, des produits plus éthiques. Ils ont plutôt l'impression que les supermarchés, depuis un petit temps, font des efforts. Ils proposent de plus en plus des produits locaux, des produits bio, des produits équitables.
C'est sûr qu'aujourd'hui, les supermarchés font des actions pour intégrer beaucoup plus de produits locaux, pour également avoir plus de produits en direct du producteur. Donc c'est sûr qu'il faut continuer à soutenir ces initiatives positives. Ça a un effet levier vraiment sur les comportements. Sauf qu'aujourd'hui, dans les pratiques commerciales, on reste dans un modèle hyper consumériste basé sur des marges, sur la pression directe au niveau des producteurs. Donc, on travaille sur la question des volumes, la question du prix. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'est pas dans un soutien direct aux producteurs. Il est avant tout pour offrir une gamme de produits, et en l'occurrence des produits locaux, mais derrière, le producteur ou l'agriculteur se sent toujours un peu lésé parce qu'il est obligé de fournir un certain volume à un prix défini avec la grande distribution.
Il demande des mesures concrètes, notamment le respect des marges bénéficiaires.
On ne demande pas grand-chose. Hein. Il faut expliquer aux consommateurs qu'on demande 1 euro au kilo de viande bovine, ce qui représente pour un habitant, je veux dire, moyen, qui en consomme 8 kilos, 8 euros par an. Et en lait, on demande, je veux dire, 15 cents du litre de lait, alors qu'on en consomme 50 litres pour un habitant. Ça fait 7,50 euros. Donc, vous voyez, on parle de pas grand-chose, mais pour nos fermes, ça nous permettrait vraiment de sortir du rouge.
Alors, ce mois sans supermarché, qui dit mieux ?
Pour moi, je ne sais pas, parce qu'en fait, je pense que j'ai jamais pris le temps et le courage d'aller dans d'autres magasins, structures beaucoup plus locales, etc. Parce que pour moi, c'est d'office plus cher. Et c'est une idée, je crois, que je me fais.
En soi, je pourrais passer par les boucheries et peut-être les producteurs plus locaux. Donc je pense que ce n'est pas indispensable. Mais il y a des fois des produits qu'on trouve qu'en supermarché. Et si j'ai envie de ça, bah, je vais devoir y aller. Mais je pense peut-être que je pourrais finalement faire un mois, c'est faisable. Je l'ai déjà fait avec ma maman en tout cas.
Derrière ces alternatives, il y a surtout aussi tout un modèle de société qui est très différent, où l'objectif est vraiment de mettre au cœur des solutions les producteurs, les agriculteurs, les artisans, et de les mettre en vitrine, on va dire, les mettre vraiment en avant niveau auprès des consommateurs, et donc d'impliquer aussi le consommateur dans toute la réflexion liée à ses choix et à ses décisions d'achat, jusqu'à la question du prix aussi, en mettant en valeur le fait que quand on va dans ces petits points de vente, eh bien on a une certitude d'avoir quand même toute une réflexion qui a été mise en place pour soutenir un modèle de société différent et donc de valoriser tous les maillons de la chaîne. Donc on ne dit pas qu'il faut boycotter les supermarchés, mais on dit juste ouvrez-vous les yeux à ce qui existe également à côté, testez, et puis en fonction de ça, bah, c'est vous qui êtes libre de choisir le modèle que vous voulez soutenir et ce que vous trouvez mieux. Mais aujourd'hui, le débat est assez peu ouvert, et c'est par des initiatives comme celle-ci où au moins on le met sur la table et on dit allez, prenons le temps d'en discuter ensemble.
En discuter ensemble et aussi découvrir qu'une partie du monde agricole n'attend pas de grands changements de consommation pour déjà montrer la voie vers une autre forme d'agriculture que celle prônée par l'agro-business. Je veux bien sûr parler de l'agroécologie.
L'agroécologie, c'est sexy. L'agroécologie, c'est sexy.
Tout à fait. L'agroécologie, c'est un peu un concentré de solutions à pas mal de défis et de crises telle que la crise agricole qu'on connaît, du secteur agricole qu'on connaît actuellement, même si elle est mise en avant maintenant et les agriculteurs portent leur voix et leur colère au niveau des institutions maintenant, mais c'est une crise qui est sous-jacente depuis des décennies. Et donc l'agroécologie, c'est un ensemble de solutions à ces problèmes-là, ces problématiques-là. Mais on est tellement inséré dans ce qu'on pourrait appeler des chemins de sentier. En politique publique, c'est ce qu'on appelle des chemins de sentier, c'est-à-dire qu'on a mis en place des modèles de production, des modèles de consommation, etc., qui maintenant qu'on est dedans, en fait, sont un peu, on pourrait dire en anglais, locked, enfin, qui sont vraiment verrouillés, en fait. Et pour faire sauter ces verrous, ça demande à la fois des politiques, de l'ambition dans les politiques et des décisions politiques fortes et des budgets. Et ça, on ne les a pas. Et donc, le fait de changer tout le modèle en aval de transformation et de distribution, ça permettrait, ça faciliterait ce nécessaire changement vers l'agroécologie. C'est pour ça qu'on demande à la fois un cadre politique qui investisse, qui mette les budgets dans la transition agroécologique, mais aussi le cadre socio-économique sécurisant, correspondant, c'est-à-dire qui assure des prix rémunérateurs.
Alors je pense que ce serait assez compliqué parce que j'habite dans un milieu rural et que ben, les magasins de petites structures n'existent pratiquement pas. Maintenant, s'il existait des petits producteurs locaux dans ma commune, peut-être que oui.
Disons que voilà, le but du supermarché, c'est vraiment remplir le frigo pour moi. Il n'y a pas d'autre... c'est pas forcément très amusant. Donc s'il y avait d'autres moyens de remplir mon frigo, peut-être.
Dans mon micro-trottoir, vous l'entendez, tout le monde ne dit pas non. Je me suis aussi dit qu'il était temps de tenter l'aventure. Alors, pas très loin de chez moi, j'ai poussé la porte d'un petit magasin de vente en circuit court Et j'ai fait la rencontre de Frédéric Jadoul, qui cultive en bio et fait partie de la coopérative Agricovert.
J'ai mon maraîchage qui est dans la production sur place, mais je fais partie d'une coopérative Agricovert qui me permet d'être en lien avec de nombreux confrères maraîchers, éleveurs, producteurs de produits de plus de grandes cultures, style céréales, etc. Ce qui me permet d'avoir un achalandement assez diversifié et suffisamment complet pour que le consommateur n'ait pas besoin d'avoir recours à plusieurs points pour s'approvisionner en produits de base.
Et j'ai demandé à Frédéric qu'est-ce qu'il pensait du mois sans supermarché.
L'intérêt est, je crois, de dédramatiser en quoi peut consister de pouvoir fonctionner sans supermarché. C'est une habitude qui s'est installée dans beaucoup de familles et pour plusieurs raisons et qui sont tout à fait compréhensibles. Mais en soi, fonctionner pas indéfiniment, mais très largement sans supermarché n'a rien d'un défi. C'est peut-être pas le cas de la majorité de mes clients, mais il y en a quand même plus d'un qui viennent dans mon magasin chaque semaine en disant nous avons ce qu'il faut pour notre semaine et ils vont effectivement dans un supermarché une ou deux fois par trimestre pour compléter ce qui se trouve pas dans la petite boutique à la ferme et ils s'en trouvent très bien comme ça et ça n'a rien d'un défi, au contraire ils ont l'air, sur la durée, d'exprimer que finalement ça les apaise de s'habituer à fonctionner dans un cadre, je dirais, allégé et simplifié. Ils trouvent l'essentiel de ce dont ils ont besoin pour se nourrir sur un magasin de 48 mètres carrés exactement. Et ça rend les choses plus fluides et plus simples.
Si c'est pour une bonne cause, je le ferai volontiers, oui.
Oui, je pense que c'est possible. Je vais régulièrement dans des alternatives à des supermarchés.
Pas de problème.
Oui, parce que je crois que déjà dans la vie, je vais rarement si ce n'est pas juste pour acheter de la merde comme maintenant. ça me paraît pas impossible en fait.
C'est peut-être déroutant au départ de devoir se passer du type de yaourt dont on a l'habitude ou que sais-je, mais ça, une fois qu'on arrive à se mettre dans le moule, je crois que c'est quelque chose qui finalement contribue au bonheur des gens. Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont absolument pas forcés de fonctionner comme ça, mais ils reviennent chaque semaine et au bout de plusieurs années, ils sont toujours aussi contents, sans que j'aie besoin de renouveler ma gamme ou de déployer quoi que ce soit comme action pour les attirer ou les fidéliser.
Grand concours ! Achetez plus et aidez votre supermarché préféré à devenir numéro 1. Number 1.
Quand un produit est déstocké, on est là pour leur expliquer pourquoi. Et c'est pas un problème de trouver un plan B et de faire avec autre chose cette semaine-là. Ça leur fait finalement du bien de savoir apprendre à fonctionner avec finalement ce que la nature nous donne au moment où elle nous le donne, plutôt qu'à travers un planning qui est finalement déshumanisé quelque part.
Je dirais que oui, je pourrais passer un mois sans faire ça, oui. Pour moi, c'est pas un défi, c'est plus pour faire vivre l'économie locale, puisqu'en général, justement, quand on vend des produits via ces filières bio ou locales, des épiceries locales, on travaille avec les fermes du voisinage, ou que ce soit pour vendre des produits laitiers, avec des légumes, des fruits de saison déjà aussi. Donc en général, c'est plus intéressant aussi de faire tourner le commerce, on va dire, de proximité.
Alors pour l'instant, je me fais livrer du lait et du beurre de la part d'une fermière et des œufs. Je vais à la boulangerie, je fais du pain moi-même. Je vais à la petite boucherie du village qui est ouverte depuis pas longtemps.
C'est pas génial de faire ses courses en grande surface, je suis complètement d'accord avec ça.
Donc je suis vraiment d'accord avec le fait de ne pas aller en supermarché pendant même plus d'un mois. Je l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais je ne serais pas contre le fait de le faire.
Et dans la clientèle de Frédéric, il n'y a que des bobos ?
Alors, il y a un peu de tout, mais c'est une démarche de type lent. Les personnes qui viennent sont à 95% les mêmes chaque semaine. On ne parvient pas ou difficilement à atteindre ceux qui ne sont jamais venus. Mais ceux qui viennent et qui s'y plaisent sont vraiment de toute catégorie de personnes.
La vente directe tient-elle ses promesses d'un meilleur revenu aux producteurs ? Oui, à en croire Frédéric, à condition de considérer que ce qu'on récupère surtout, c'est la marge sur la distribution.
Alors, je n'ai pas de fin de mois difficile, mais soyons clairs, la marge bénéficiaire se réalise uniquement sur la distribution. Je fais fonctionner un magasin et je livre environ 120 abonnements à travers les GASAP. Pour faire simple, voire un peu simpliste peut-être, mais que tout le monde va pouvoir comprendre, c'est que si demain j'arrête ma production et que j'achète à des confrères la marchandise nécessaire pour poursuivre mes activités commerciales, je gagnerai la même chose. Donc, le travail au champ, c'est du travail bénévole.
C'est pas là qu'on fait vraiment du revenu, en fait.
Il n'y a pas de plus-value sur la production primaire.
Ou alors, il faudrait que les prix soient plus élevés.
J'ai jamais travaillé avec des supermarchés, mais j'ai travaillé avec des distributeurs locaux de plus ou moins grande taille. Moi, j'ai tout à fait arrêté ce secteur d'activité parce que ça ne procure pas de marge bénéficiaire.
C'est ça, là, tu te retrouvais dans le cas de figure où tu dis que tu n'es plus que producteur et tu dis que c'est quasi bénévole d'être producteur parce que là...
Oui.
C'est un prix de revient, enfin, voilà. C'est quasi... Il n'y a pas de marge que tu peux prendre pour vivre.
Non, il n'y a pas de marge. Et ceux qui parviennent à poursuivre ce genre d'activité, c'est ceux qui ont suffisamment de foncier qui leur permet d'accéder à suffisamment de primes PAC annuellement, et finalement, leur salaire, c'est les primes. Okay. Mais comme en maraîchage, on n'implique pas beaucoup de foncier, on n'est pas dans ce canevas.
Ce dont Frédéric témoigne, c'est le résultat d'une systématique diminution du coût des aliments qu'ont mis en place les supermarchés et la concurrence mondiale à laquelle se livrent malgré eux les producteurs et les productrices. C'est la course au prix le plus bas. C'est un système sous perfusion permanente des primes de la politique agricole commune. Résultat, quand on souhaite proposer une alternative au système dominant, on se heurte rapidement à la difficulté de proposer un prix qui puisse tout de même séduire les consommateurs et les consommatrices, tout en n'obligeant pas à un rendement énorme. Et ce, même si on maîtrise toute la chaîne de production.
Il y a selon moi deux leviers importants qui permettent d'agir sur le revenu finalement disponible pour l'agriculteur. C'est le prix auquel il vend son produit, c'est certain, mais il y a aussi dans toute la démarche supermarché, d'ailleurs moi je crois que on est en train tout doucement mais sûrement d'être confronté aux limites du système, du canevas global de fonctionnement du supermarché, parce que eux-mêmes disent on n'a plus de marge.
C'est ce qu'on a entendu ces derniers temps.
Voilà. Alors bon.
Ce qui est difficile à comprendre parce qu'on dit où va la marge, voilà. Les supermarchés n'ont pas la marge et les agriculteurs n'ont pas la marge.
Où va leur argent ? Où va leur argent ?
On dit tiens, la grande distribution, on a beaucoup d'argent. Donc les marges sont vraiment quasiment invisible chez nous. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Comeos qui le dit, c'est le SPF Économie.
Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, secteur de la grande distribution, interrogé par la RTBF.
Qui dit que sur un petit chariot de 100 euros, le commerce gagne 1,3 euros. Donc, c'est des marges qui sont beaucoup trop faibles. Celles des agriculteurs sont aussi trop faibles, on est bien d'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas moyen de travailler.
Ouais, j'ai envie de dire, vous nous faites pleurer un peu là, mais non, franchement, c'est quand même un peu étonnant d'entendre ce discours parce que il y a plusieurs aspects. Hein. Premièrement, le fait que à l'instant T, effectivement, les marges sont devenues relativement faibles puisqu'on parle de marge nette en dessous de 20%. Mais historiquement, il y a eu des périodes beaucoup plus fastes de vaches grasses pendant lesquelles la grande distribution faisait d'énormes bénéfices. Je pense notamment à la période du Covid où on a vu une sorte d'exclusivité. Les supermarchés, hypermarchés étaient ouverts et donc il y a eu d'énormes bénéfices engrangés à cette période-là. Ça, c'est un point. D'autre part, on parle ici de marge nette, mais il faut aussi tenir compte des volumes de vente. Hein. Si on a une marge faible mais qu'on a d'énormes volumes, eh ben c'est finalement le bénéfice, il est quand même important, même si la marge était faible. Et un troisième point, c'est que on peut très bien avoir des marges faibles, mais faire payer les fournisseurs via d'autres moyens, via d'autres techniques. Et ça revient aux pratiques déloyales dont je parlais un peu plus tôt. Le fait de faire payer des rétrocommissions ou d'avoir des délais de paiement longs ou de faire payer des promotions dans les catalogues ou tout ce genre de pratiques, finalement, c'est faire payé par la fenêtre ce qu'on n'a pas payé par la porte, quoi, si je peux dire. Et donc, y a vraiment toute une série de techniques qui font que la grande distribution s'en sort finalement bien. Et on ne peut pas uniquement regarder l'indicateur qu'est la marge nette, comme le fait dans le contexte de crise actuelle Comeos et la grande distribution. Quoi.
Vous n'avez pas encore le GSM X48302 avec station météo et batterie non rechargeable intégrée ? Courez au rayon télécommunications.
Et il y a une vraie question là derrière qui, à mon avis, mérite d'être travaillée au moins tout autant que le prix auquel on vend le produit. C'est tout l'argent qui dépense dans le foncier pour avoir des grands magasins accessibles aux endroits les plus stratégiques avec de vastes parkings. Il y a parfois même des petites ou moyennes surfaces mais qui payent des loyers faramineux pour être aux meilleurs endroits pour toujours viser le chiffre d'affaires le plus élevé possible. Alors, il y a tout ce qui dépense dans la publicité, la communication sous toutes ses formes. Et il y a le fait aussi qu'on a, depuis des décennies, la priorité, c'est le confort du consommateur, également en termes de plage d'ouverture. Il faut bien se rendre compte que si on analyse les heures d'ouverture de toute une semaine d'un magasin, il faut, en respectant l'horaire normal de prestation d'un collaborateur, de 38 ou 39 heures semaine, quelque chose comme ça, eh bien, il en faut quasiment 3 pour assumer la présence d'une personne pendant toutes les heures d'ouverture. Mais donc, ça nécessite des équipes hyper importantes. Donc, est-ce bien nécessaire d'être ouvert de 8h à 20h tous les jours et encore le dimanche, etc. Jusqu'à présent, toutes les chaînes ont toujours travailler dans le sens du plus. On veut toujours faire le plus possible de chiffre d'affaires et si on peut arriver à trouver une bonne raison de faire revenir le client 5 fois par semaine dans le magasin, et ben on va le faire. En se disant, comme ça, il achètera plus que s'il était venu qu'une ou deux fois.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques de la grande distribution, ils le mettent souvent en avant. Leur problème en premier, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Et donc, ils veulent offrir des produits au meilleur prix, et coûte que coûte. Donc jusqu'à arriver à des contextes comme aujourd'hui, que l'on vit aujourd'hui avec les agriculteurs, où aujourd'hui le producteur n'est pas payé à sa juste valeur, entre guillemets. Aujourd'hui, ils produisent à perte. Ils ont également aussi des problématiques par rapport à certains produits qui ne sont pas acceptés parce qu'ils sont hors calibre ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le système prouve clairement que la grande distribution, même si elle travaille avec des producteurs locaux, ne joue pas le jeu jusqu'au bout de la chaîne, en fait. Et c'est ça que les alternatives, elles, font, en étant en proximité des producteurs, en discutant la notion de prix, en proposant aussi des solutions différentes. Eh bien, en fait, on montre qu'on peut aller vers une autre agriculture, qu'on peut aller vers d'autres moyens pour soutenir les agriculteurs et qu'on peut surtout avoir aussi un lien direct avec lui. Quand j'achète une salade qui est pré-emballée dans une grande surface, Est-ce qu'aujourd'hui je suis connectée à la réalité de comment cette salade a été produite? Et ce n'est pas le cas en fait. Aujourd'hui, ça se montre réellement dans le concret aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les agriculteurs se plaignent. C'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus en considération tout le travail qui est entrepris par eux et qui a une valeur essentielle, nous nourrir en fait. Sans eux, on n'est rien en fait. Si on enlève ce maillon-là de la chaîne, ben, en fait, on n'est nulle part.
Le mois sans supermarché se termine déjà doucement et j'avoue avoir pris goût au défi que je me suis lancé. Mais une question me turlupine. Peut-on vraiment attendre des consommateurs et des consommatrices d'être les héros et héroïnes du quotidien qui vont par un comportement vertueux réussir à emmener toute la société vers sa transition écologique? Oui, à en croire l'administrateur délégué de Comeos, c'est aux consommateurs et consommatrices que revient cette ultime responsabilité.
Maintenant, il y a une chose qui est très importante de savoir, c'est qu'en fait, qui est le responsable finalement? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un économiste qui vient de publier un article aujourd'hui. Qui est vraiment le responsable de la crise agricole? C'est le consommateur.
Est-ce que ce n'est pas un peu facile ça? Le mois sans supermarché, c'est vrai, en appel aux consommateurs et aux consommatrices. Mais il n'a jamais été question d'estimer que ce sont elles et eux qui portent la responsabilité morale de ce qui se passe actuellement. Comme dirait Hugues Fallis, administrateur et porte-parole de la FUGEA,
je voudrais quand même m'inscrire en faux par rapport à ce qu'on a entendu. Le consommateur responsable, quand on sait qu'avec une tonne de blé qui vaut aujourd'hui 175 euros, entre parenthèses, quand j'ai repris l'exploitation il y a 30 ans, ça valait 200 euros. Donc vous imaginez l'évolution des choses. Donc avec cette tonne de blé qui vaut 175 euros, on produit à peu près pour 4000 euros de pain. Donc toute cette différence, ce n'est pas la faute du consommateur, elle va dans la poche de la transformation et de la distribution. Donc mettre la responsabilité sur le consommateur et en sachant que
quand même... Et qui va peut-être pas toujours chercher les bons produits, c'est ça la question.
Oui, bien sûr, mais les conditions économiques sont difficiles pour beaucoup de consommateurs. Donc je pense qu'on peut quand même mettre la responsabilité plutôt sur la transformation et la distribution.
Comme le rappelle l'association française L'Atelier Paysan dans son manifeste « Reprendre la terre aux machines », beaucoup pensent que le temps travaille pour une transition douce portée par toutes les alternatives qui n'ont eu de cesse de se développer ces dernières années. Il est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives, de circuits courts, de petits magasins de producteurs, productrices, de bio, d'équitables, de vrac et de zéro déchet. On a l'impression que les gens font plus attention à ce qu'ils et elles mangent. Pourtant, le modèle agricole dominant est-il ébranlé par ces évolutions? Par ces changements de pratiques individuelles? La réponse est malheureusement non. Les quantités de pesticides épandus n'ont pas diminué. Les ventes ont même augmenté. Les terres continuent de reculer face au béton, à la vitesse d'un terrain de foot toutes les 5 minutes. Le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices continue à diminuer. Des dizaines de fermes continuent à disparaître chaque semaine. Selon l'Atelier Paysan, aussi précieuses soient-elles, les alternatives ne constituent pas un projet politique en elles-mêmes et ne mettent pas en danger l'agriculture industrielle. Alors le mois sans supermarché, c'est avant tout une porte qui ouvre vers un chemin qui nous invite à aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, une partie du monde agricole est véritablement en lutte pour faire advenir un autre modèle agroécologique. À côté des syndicats majoritaires, ils étaient aussi présents au début du mois à Bruxelles pour demander une transition agroécologique forte et soutenue par les pouvoirs publics, un autre projet de société vers l'agriculture paysanne, une vraie rupture avec les choix politiques qui ont été faits par les sociétés industrialisées après la Deuxième Guerre mondiale. Plein d'associations en Belgique francophone travaillent à cela, comme par exemple FIAN, que j'ai rencontré pendant la manif des agriculteurs à Bruxelles.
Je m'appelle Florence Croff, je travaille chez FIAN Belgique, je suis chargée de recherche et de plaidoyer. C'est une organisation de droits de l'homme et on a comme spécificité de défendre le droit à l'alimentation. Avec une approche basée sur les droits et sur le droit international, on va essayer de faire bouger les lignes et d'appuyer une transition vers des modèles alimentaires plus durables ici en Belgique et au-delà de nos frontières aussi.
Alors c'est décidé? Je prolonge mon mois sans supermarché, mais surtout, le mois prochain, je vais soutenir les actions des syndicats et des mouvements paysans. D'ailleurs, le 17 avril, c'est la journée des luttes paysannes. À cette occasion, en Belgique francophone, le RESAP, le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, concocte toujours une action. On s'y retrouve ?
L'agroécologie, c'est sexy. L'agroécologie, c'est sexy.
Vous venez d'écouter Ça va le faire.
produit par Oxfam Magazine du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, SoundCloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles.